ce dernier enseignement sur le combat spirituel. Je vais essayer de reprendre une question que j'ai souvent apportée dans le cadre de l'école cathédrale, en même temps que j'étais aumônier d'hôpital. C'était le combat dans la souffrance. Alors, le combat spirituel que représente l'épreuve de la souffrance. J'ai envie d'introduire en vous racontant une anecdote. C'est Nicolas Butet, vous connaissez tous, qui racontait qu'il avait rencontré un évêque chinois qui avait passé 19 ans dans les camps. Et la première chose qu'il a voulu lui demander, c'est comment il avait fait pour supporter une telle épreuve. Là, il était, je dirais, dans, comment dire, l'impression de quelque chose qui avait dû, évidemment, être très, très éprouvant. Et en fait, l'évêque ne répondait pas, et il avait l'impression que quelqu'un qui comprenait pas la question. Alors, il insistait, Nicolas Butet, enfin, cette épreuve, comment vous avez fait pour supporter tout ça? Et il a répondu, en gros, qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Il a dit simplement, mais Dieu, vous savez, Dieu a été tellement bon avec moi. C'est ce que j'ai retenu des paroles de l'évêque. Dieu a été tellement bon avec moi. Ça m'a rappelé l'hôpital, pour une même maladie, des réactions à la souffrance complètement différentes. Et donc la question de savoir comment on vit les épreuves et les souffrances dans notre vie, c'est une question qui, je dirais, est essentielle pour nous, que nous puissions effectivement arriver à surmonter les difficultés sans nous laisser abattre par la dureté du monde, mais de penser que les choses, les mêmes épreuves peuvent être vécues très différemment selon les dispositions qui sont les nôtres. Il y a quelque chose qui dépend vraiment de nous. Moi, j'ai conclu de ces 10 ans à l'hôpital qu'il n'y avait rien que l'homme ne pouvait traverser avec la grâce du Christ. Même si ça paraît facile à dire, qu'on dit mais non, mais en réalité, je ne vois pas d'exception à cette règle. Dans le monde, vous aurez à souffrir de Jésus, mais gardez confiance, moi j'ai vaincu le monde. Et nous avons, nous, chrétiens, la foi en un Dieu qui a voulu se rendre présent dans la souffrance humaine pour précisément lui donner un sens nouveau. Et ce serait dommage de se priver de l'évangile, de ce que j'en peux appeler l'évangile de la souffrance, qu'il a osé appeler l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle sur la souffrance. Ce serait dommage de nous en priver. Je dis ça parce que beaucoup n'osent plus parler de cette question-là, en considérant que parler de la souffrance, c'est pas... On est soupçonné de vouloir avoir un langage spiritualisant et qui serait déconnecté de la réalité de la vie. Bon. Je pense qu'il faut pouvoir retrouver un peu d'audace, parce que cet évangile de la souffrance, mais j'ai fait l'expérience que pour les personnes malades à l'hôpital, c'était pas rien que de pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle. La souffrance peut avoir un sens. On peut découvrir un chemin de résurrection dans les épreuves les plus douloureuses.
Rien à ajouter.
Non, je partage.
Peut-être l'arrêter, ça. Parce que... Alors, pour... bien poser la question du sens de la souffrance. Il faut, je pense, partir d'un regard de sagesse sur ce qu'est vraiment le mal et faire une distinction déjà entre le mal et la souffrance elle-même. Le mal, c'est en philosophie défini comme étant la privation d'un bien. Dieu nous a créés pour que nous ayons la vie, la vie en abondance, et à cause du péché qui est entré dans le monde, eh bien, il y a des choses, il y a des biens qui sont détruits. Il y a une puissance destructrice du péché. Cette destruction du bien est un mal. Maintenant, il y a différents biens. Il y a le bien de la santé physique. Il y a le bien de la santé psychique. Et puis, il y a le bien de la santé spirituelle. Donc, il y a différents mots. Et simplement, on ne les ressent pas tous de la même manière. Je veux dire que la souffrance, elle naît quand on éprouve le mal. Voilà. Et quelqu'un auquel on est en train de couper la jambe, sous anesthésie, c'est un mal de perdre sa jambe. Et il est sous anesthésie, il n'éprouve pas le mal. Et en attendant, il a quand même plus de jambe. Ou, prenons un autre exemple, peut-être plus simple, quelqu'un qui a un cancer. Le cancer ronge son organisme, mais souvent il ne l'éprouve pas. Alors, au niveau psychique, est-ce qu'on peut avoir un état psychique qui est vraiment très détérioré et qu'on n'éprouve pas, on n'éprouve pas comme on devrait l'éprouver? Qu'est-ce que tu en penses, Florence? Les personnes qui sont dépressives sans le savoir, qui n'en souffrent pas, il y a quelque chose en elles qui est...
Ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse être dépressif sans le savoir.
Ah oui, je n'ai pas souffert
jusque-là.
Non, parce que je pense à ces gens qui vivent à la superficie vraiment d'eux-mêmes, qui ne ressentent pas leurs émotions profondes. Quel autre exemple on pourrait donner à ce moment-là?
Non, moi je pensais plus à des personnes qui ont un handicap mental ou une maladie psychique qui fait qu'ils ne ressentent. Ils sont dans quelque chose, mais ils ne savent pas qu'ils sont mal. Mais c'est des cas extrêmes, je crois que ce n'est pas ça qu'il faut prendre comme exemple.
Remarquez, c'est sûr que le fou, il a perdu la raison et il n'en souffre pas nécessairement. Bon. Là, c'est un bon exemple.
Qu'est-ce qu'un fou? Qu'est-ce qu'un fou? N'allons pas là-dedans. Cherchons d'autres exemples plus simples.
Oui, parce que je ne sais plus quel philosophe a dit que le fou, c'est quelqu'un qui a tout perdu sauf la raison.
Ça se peut bien. Mais oui. N'allons pas là-dedans.
Maintenant, quel est le mal au niveau spirituel? Quel est le bien dont on est privé? C'est de Dieu. En fait, le mal le plus grand, le mal absolu, c'est la privation du bien absolu, ça s'appelle le péché. Alors là, pour le coup, la distinction entre le mal et la souffrance, elle est claire, parce qu'on peut être dans un état de péché catastrophique, être vraiment très loin de Dieu, et ne pas en souffrir. Bon. Vous voyez bien, j'ai trouvé cette distinction claire chez Jean-Paul II dans son encyclique sur la souffrance, et c'est vraiment, je crois, un enseignement traditionnel, simple, mais finalement très, très éclairant. Écoutez le catéchisme. Le plus grand mal, c'est le mal du péché. sans commune mesure plus grave que le mal physique. Sans commune mesure. La différence entre la privation d'un bien limité et puis la privation du seul bien absolu qu'est Dieu. Bon, vous voyez, il y a tout de suite le problème de fond, hein. C'est qu'on vit dans un monde qui absolument utilise, qui considère que la souffrance physique, c'est le mal absolu, en gros, et psychique. Mais qui confond la souffrance et le mal, déjà. Il ne fait pas de distinction. La souffrance devient elle-même le mal. Et qui ignore le mal le plus grand qu'est le péché. Alors déjà à cause de ça, on ne parle pas le même langage et on ne peut pas rentrer dans la logique du monde par rapport au discours qui est fait sur le mal. Les gens parlent le mal, mais pourquoi Dieu permet le mal, et pourquoi il y a tant de mal dans le monde, et tout ça. Et on commence à dire, oui, mais il y a le problème du péché, et il est évacué les consciences. Puis 12, le péché de notre siècle, c'est d'avoir perdu le sens du péché. Je pense que c'est ça qui fausse essentiellement la réflexion sur la question de la souffrance. Parce qu'en réalité, ce qui est dramatique, c'est que le pécheur, ne sait pas dans quel état il est, et ne se rend pas du tout compte du danger dans lequel il est, la gravité de son état. Ici, je vous invite à vous remémorer la parabole de Lazare et du mauvais riche. J'ai fait le test avec des étudiants qui m'ont demandé de parler sur cette question de souffrance. Vous voyez l'état du mauvais riche, le mal moral, le mal du péché, catastrophique, l'état dans lequel il est, d'endurcissement, d'autosuffisance, de séparation de Dieu et des autres, d'insensibilité, et il n'en souffre pas. La parabole dit même qu'il a eu son bonheur sur terre. Et puis vous regardez l'état de Lazare, et j'ai un peu la question, vous préférez être de quel côté? J'ai envie de vous la poser. Choisissez quoi, quel camp?
Je ne choisis pas.
Ni l'un ni l'autre.
Voilà.
Oui, ni l'un ni l'autre. Oui, ben, oui. À quoi sert gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Jésus nous invite à choisir. Hein. À quoi sert gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Ni l'un ni l'autre. Ben non, j'ai dit dans la vie, il y a des moments où il faut choisir. Hein. Soit le martyr, la mort, soit le reniement de Dieu. Eh bien, c'est bien ça que vivent les martyrs. Hein. Choix entre un mal moral et un mal physique. Ben, effectivement, moi, je n'ai pas eu de réponse. Donc, comme quoi, la gravité du péché n'est pas bien enregistrée. Je pense que tant qu'on n'est pas capable de répondre à cette question, c'est qu'on n'est pas tout à fait bien axé. Hein. Ah, je suis désolé, mais...
On n'est pas obligé d'être Lazare non plus.
On n'est pas obligé d'être Lazare non plus, mais il faut savoir ce qui prime. Est-ce que c'est l'union à Dieu, la vie, la vraie vie, la vie éternelle? Ou est-ce que c'est de pouvoir avoir le plus grand bien-être pour quelques années encore sur cette terre? Bon, vous voyez que les bases de départ sont pas claires dans notre cœur, on n'est pas tout à fait, je dirais, pour que l'évêque chinois ait pu répondre ça, vous voyez, c'est que lui, son choix, il était fait. Je pourrais vous citer aussi, j'ai envie de vous citer aussi la merveilleuse réponse de Paquita, vous connaissez Paquita? Paquita, capturée par des négriers à l'âge de 9 ans, pendant des années, non seulement fouettée mais torturée, avec à garder toute sa vie des plaies, une vie de martyr jusqu'à ce que ce soit un Italien qui, au début du XXe siècle, la rachète comme esclave et finalement la traite d'une manière humaine, puisqu'il était chrétien, et finalement elle a pu aller se retrouver en Italie, et là elle a demandé sa liberté. Et sa maîtresse, un peu à contre-cœur, a été obligée par la loi italienne de ne pas lui imposer de retourner en Afrique, donc elle est restée, elle est devenue religieuse. Voilà. Et alors, on lui demande, que feriez-vous si vous rencontriez vos ravisseurs? Sans hésiter, un Célestin répondit, si je rencontrais les négriers qui m'ont enlevé, et même ceux qui m'ont torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car si cela n'était pas arrivé, je ne serais maintenant ni chrétienne ni religieuse. Oui, moi, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est une vision différente que la plupart du commun des mortels. Elle sait ce qui est vrai bien et ce qui est vrai mal aussi. Le bien absolu, le mal absolu. Et le reste, elle relativise. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais, parce que ça, la plupart des chrétiens ne sont pas capables de répondre à ça. Hein, parce qu'on n'est pas... On n'est pas tellement clair sur ce qu'on veut vraiment. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Bon, ça c'est une petite introduction. Alors, essayons de comprendre... ce que l'Écriture nous dit sur le sens que Jésus donne à la souffrance, parce qu'il l'a assumé pour... En gros, qu'est-ce que nous dit l'Évangile? Il nous dit que la souffrance qui est liée au péché, d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement à notre péché personnel, mais qui est liée au péché qui est entré dans le monde, Dieu a voulu l'assumer, en incarnation, de telle manière à en faire la matière d'un chemin de salut qui nous libère du péché qui est à l'origine de la souffrance. Donc la conséquence du péché, du mal moral, qui est la souffrance à la fois morale, physique et psychique, tout ça, Jésus l'a assumé dans sa passion pour que l'homme pécheur trouve dans les conséquences de son péché le chemin du salut. C'est quand même très fort. On ne réalise pas bien qu'on a une religion quand même spéciale, hein, qui nous dit que là où on commet une faute, dans les conséquences de la faute, il y a un chemin de rédemption possible. Et il y a des chrétiens qui se privent de ça, qui préfèrent considérer que la souffrance, par définition, est absurde. Non, ce qui est absurde, c'est le péché, et pas la souffrance. La souffrance, encore une fois, c'est pas le mal absolu. Le mal absolu, c'est la privation de Dieu. La souffrance, elle peut avoir un sens. Non, elle va avoir un sens pour nous sortir du mal absolu qu'est le péché. Même si elle est liée au péché, Dieu peut s'en servir. Donc c'est ça le point essentiel. Tant qu'on se focalise sur la souffrance elle-même, et qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose de plus grave, eh bien, on ne peut pas entendre l'Évangile. Alors, quel est le chemin que Jésus trace ? Eh bien, si on reprenait la parabole du fils prodigue, qu'est-ce qui se passe dans la parabole du fils prodigue? On voit un homme qui pêche, mais qui ne se rend pas compte du tout du mal qu'il fait, c'est-à-dire il s'éloigne de son père dans l'ingratitude la plus grande. Et puis ensuite, forcément, il se détruit lui-même, il s'abaisse, il s'avilit. Puis il y a un moment où il ressent enfin la souffrance. Mais heureusement qu'il commence à ressentir la privation. Parce qu'il dit, il ressentit la privation. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ne la ressentent pas, la privation. Mais lui, il commence à la ressentir. Et c'est quand il commence à la ressentir qu'il y a, hop, un chemin qui va lui permettre de remonter. Mais la privation, elle était là plus longtemps. Mais entre le moment où il revient vers la maison du père et le moment où il ressent la privation, il y a un point décisif, qui est le point, je dirais, le premier moment de la rédemption. C'est qu'il va avoir la lumière sur son péché. Il va voir le mal qui est à l'origine. S'il n'avait fait que ressentir la souffrance, ça serait arrêté là. Dans ce ressenti de la souffrance, il y a une lumière qui se fait. Alors là, c'est de fait un peu mystérieux. Parce que ça rejoint tellement de situations que j'ai pu connaître à l'hôpital, de personnes qui ont eu la lumière dans la souffrance, on ne peut pas dire autrement. Suite à l'épreuve endurée par son âme, mon serviteur verra la lumière, dit l'Écriture, dit Isaïe 53. Suite à l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière. Moi, après des années d'accompagnement de personnes souffrantes, je pense surtout aux grands malades, j'en suis arrivé à la conclusion que la souffrance, c'est comme une faille qui laissait passer la lumière. Je n'ai pas trouvé d'autre manière de dire, mais c'est sûrement pas suffisant. Il y aurait sûrement à creuser pourquoi dans la souffrance il y a la lumière qui se fait. En fait, c'est parce que Jésus est présent et qu'il est la lumière, mais une fois qu'on a dit ça, on n'explique pas tout. Mais enfin, il y a une rédemption là. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est aussi parce que les personnes sont face à l'impossible presque, donc il y a une prise de conscience d'un sentiment d'inutilité ou d'erreur dans la vie. Donc je pense que ça aussi, ça joue pour que le Seigneur leur donne la lumière, non? Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais non. Il n'y a pas que ça. Je ne sais pas. Puis on est affronté à son extrême pauvreté, donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, on n'est pas replié sur soi, justement, comme le riche. Il y a une pauvreté extrême qui fait qu'on est ouvert à quelque chose, on cherche un sens, et moi je dirais même au niveau psychologique, sans même parler du niveau spirituel, déjà au niveau psychologique. Merci, en plus on peut avoir l'ouverture spirituelle, c'est magnifique.
Non, je ne sais pas.
Ce que tu dis, c'est ça.
Oui, je repense quand même. Oui, on pourrait se référer. Jésus dit un moment à la débauche, prenez garde de vos cœurs à vous-même, de peur que la débauche, l'ivronnerie, les soucis de la vie appesantissent vos cœurs. Mm-hmm. Il y a dans un état un petit peu de jouissance immédiate ou dans lequel on est une sorte d'ivresse, hein, d'une vie qui en réalité reste assez artificielle, on sent bien qu'il y a un aveuglement en même temps. Par contre, quand tout cet aspect-là, il y a un dépouillement à ce niveau-là, on sent bien qu'il y a une sorte d'aiguisement de l'esprit qui arrive à une lucidité plus grande, une sorte de désencombrement. On est libéré d'un apesantissement d'une lourdeur liée à un état de jouissance qui favorise à mon avis aussi une autosuffisance dans laquelle l'homme de fait est fermé sur lui et ne peut pas s'ouvrir à la lumière. Mais bon.
Mais justement, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une faille dans laquelle Jésus se glisse et se révèle. Je pense que c'est toute cette prise de conscience de non-sens, de pauvreté, cette angoisse de tout d'un coup voir qu'on va tout perdre. Chez les grands malades, on voyait ça à l'hôpital. Cette angoisse de voir qu'on va tout perdre, et puis qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, regard sur le passé aussi. Et puis je pense que Jésus se glisse dans cette angoisse, dans cette faille, dans ce désarroi.
Oui, mais il y a peut-être aussi un travail de purification qui se fait. Première purification. Première couche de... Bon. C'est, en tout cas, pour moi, ce n'est pas simplement une question de disposition psychique, mais j'y vois une première œuvre de rédemption.
C'est pas vers n'importe qui qu'il va, c'est vers le Père, c'est vers un amour gratuit.
Mais le sait-il ?
Il y a une expérience étant bébé, enfin, de cet amour totalement gratuit et dans une profonde dépendance, dans une profonde souffrance, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça.
Oui, enfin, le fils prodigue, il ne croit pas en l'amour gratuit du Père, puisqu'il est prêt à être embauché comme serviteur. Il est dans des dispositions de quelqu'un qui simplement prend conscience qu'il s'est éloigné de la vraie vie et que sa vie qu'il mène n'est pas la vraie vie. Il voit sa misère et il retourne vers là où il prend conscience que c'était en fait qu'il prend conscience de son aveuglement, parce qu'il a quitté la maison du Père pour descendre dans des régions inférieures. L'Écriture nous dit, c'est pour votre correction que vous souffrez. On n'ose pas dire ça, hein. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, dans la souffrance, il y a une grâce de lumière qui peut nous permettre de nous convertir. Mais c'est pas le dernier mot sur la souffrance, et c'est pas l'unique, et c'est pas toujours le cas. Personne n'a autant souffert après Jésus que la Vierge Marie, selon les saints, l'intuition des saints, et Marie, elle n'a pas été corrigée. Donc, ça ne dit pas tout le mystère de la souffrance. Mais c'est un aspect c'est l'aspect le plus visible pour moi. En tout cas, dans mon expérience de prêtre, que de voir l'appel à la conversion et à une ouverture plus profonde sur sa misère, sur son péché, dans l'épreuve de la souffrance. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture ? Elle dit, ne méprise pas, mon fils, la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend. Là, on peut tirer une première conclusion, c'est que l'Écriture nous dit, écoutez, de fait, il y a une correction au sens d'une lumière sur le péché qui est donnée par Dieu à travers les épreuves de la vie, mais ne vous découragez pas, ne le prenez pas mal. Comme toutes ces personnes âgées qui me disaient « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber malade c'est pas la bonne question.
Pas forcément âgé.
Pas forcément âgé.
Non, mais c'est vrai, on a vu souvent des personnes qui n'avaient jamais été malades de leur vie, qu'elles aient 40, 50 ans, 70 ans, et qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles ont pu faire au bon Dieu pour être malades. Elles n'ont jamais été malades et... pas qu'il y a peut-être un moment où chacun fait ça, mais c'est pas forcément des personnes âgées.
C'est pour ma cause.
On est d'accord.
Qu'est-ce que dit saint Paul ? Je ne me juge pas moi-même. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres. En fait, on a tous un peu ce réflexe quand on vit un échec, ça, de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ça m'arrive ? Bon. Eh bien, c'est une fausse piste. De fait, Dieu veut nous montrer notre péché, mais ce n'est pas celui auquel on pense. C'est lui qui nous le montre, et il nous demande de ne pas juger, nous. Un jugement prématuré. ne s'agit pas de se culpabiliser, de dire, bon, si je sauve, c'est parce que j'ai commis une faute, puis voilà, pourquoi j'ai... qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça m'arrive. Non, justement, il faut rentrer tout de suite dans un acte de foi, qu'à travers ça, le Seigneur va nous faire grandir dans la vérité, et va nous amener de fait à vivre un chemin de conversion, mais c'est sa lumière à lui, elle viendra comme elle voudra, sur un péché qu'on ne voit pas pour l'instant, et il nous demande de ne pas anticiper son jugement et son regard, et de ne pas chercher à juger par nous-mêmes de ce qui est à l'origine, de ce qui serait le par rapport à cette souffrance, cette épreuve qu'on connaît. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on se fait tous un peu piéger à vouloir nous juger nous-mêmes, laissons Dieu nous juger de son jugement qui sauve, laissons le Seigneur donner sa lumière sur nos vies, ayant confiance que dans toute épreuve, dans tout échec, dans toute souffrance, même il y a des fautes qu'on a commises, il y a quelque chose qui va venir et qui dépasse ce que nous pouvons voir humainement. Donc, d'un côté, tu dis, ne méprise pas la correction du Seigneur, c'est-à-dire ne te révolte pas et ne te braque pas, et en plus ne te décourage pas, ne culpabilise pas, mais laissez venir le Seigneur, laissez venir la lumière. Laissons-nous corriger vraiment par Dieu lui-même, qui est notre unique juge, et nous pourrons éviter bien des souffrances inutiles qu'on s'inflige à nous-mêmes en nous condamnant dans les différentes dans les épreuves que nous traversons. Comprends donc, dit le Deutéronome, que le Seigneur ton Dieu te corrige comme un père corrige son enfant. Là-dessus, Jérémie lui dit, corrige-moi Seigneur, mais dans une juste mesure, sans t'irriter. Et dans le livre des Proverbes, on a une confession, hélas, j'ai haï la discipline, mon cœur a dédaigné la remontrance. J'ai vu des personnes qui avaient été éprouvées bien des fois par le Seigneur, à chaque fois elles avaient vu son péché, leur péché, et puis à chaque fois elles l'avaient oublié, ensuite elles étaient tombées dans la même vie, 3 ou 4 fois de suite, quoi. La correction du Seigneur revenant sur toi, tu es sur un mauvais chemin, reviens, ah oui Seigneur, oui, je suis sur un mauvais chemin, voilà, pitié, le Seigneur il a pitié, et puis enfin, dès qu'elle va mieux, repart. Non, mais ils ont complètement oublié la lumière. Puis, hop, rebelote, voilà, oui, Seigneur, ça fait penser au peuple hébreu, à chaque fois que ça allait un peu mieux, ils retombaient dans l'idolâtrie, alors c'était obligé de se faire écraser par les Philistins pour revenir vers Dieu. Bon, là, c'est un peu ça, ne pas dédaigner les remontrances du Seigneur, mais garder les lumières précieuses qui nous sont données au cœur de l'épreuve. Alors, quelle attitude le Seigneur attend de nous dans les épreuves? Nous sommes un peu sur une table d'opération, c'est lui qui agit. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous d'abord? Donc, pas de prendre sa place, pas de nous juger nous-mêmes, pas de nous condamner, mais un regard de foi. Un regard de foi. C'est-à-dire que même si ce que l'on supporte est lié à aux fautes que nous avons pu commettre dans le passé, à nos égarements, un regard de foi que ce mal, Jésus l'a assumé, et que de fait, il y a un chemin possible de salut, de rédemption, et que Dieu ne permet le mal que pour un bien plus grand. Ça, en partant sur cette base, on ne se trompera jamais. Mais évidemment, Évidemment, c'est bien plus grand, on ne le voit pas. Je crois que dans toute souffrance, la première épreuve, c'est l'épreuve de la foi que le Seigneur nous demande d'exercer, de cette confiance que il y a une main divine qui nous conduit au-delà des faux pas que nous avons pu faire par nous-mêmes, que le Seigneur sait toujours retourner les choses. Jean-Paul II a beaucoup insisté sur le fait que dans la souffrance humaine, il y a l'incompréhension. Et que ça fait partie de la souffrance humaine. Et alors, ici, par exemple, on peut faire la distinction. Prenez le cas d'un sportif qui se fait souffrir lui-même énormément par des exercices qu'il fait. Mais la souffrance qu'il connaît, c'est pas une épreuve, c'est pas une croix. Parce que c'est une souffrance qu'il veut et dont il voit le sens. Par contre, tout ce qui est route barrée, contradiction, tout ce qui est absurde, tout ce qui est non-sens, même si c'est pas en soi très douloureux, tout ça, ça c'est les vraies croix. Mais la croix, on la reconnaît au fait qu'on ne peut pas en voir le sens. Et donc, les épreuves sont d'abord des lieux où le Seigneur nous attend sur ce terrain de la confiance et de la foi. Et à partir de cet acte de foi que nous posons en acceptant de ne pas comprendre, il va pouvoir opérer librement son œuvre de rédemption. En fait, ici, la sagesse, c'est de ne pas chercher à comprendre. Pas chercher à nous juger nous-mêmes, savoir d'où ça vient en nous, si c'est nous qui sommes responsables. Pas chercher à comprendre le sens non plus. C'est tout ça à Dieu. Peut-être difficile, c'est d'accepter notre impuissance à nous en sortir nous-mêmes et à donner sens nous-mêmes aux choses. Le problème, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle la vérité, c'est le sens, c'est l'homme qui le fabrique. Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut donner nous-mêmes sens aux choses. Il faut qu'on trouve un sens, il faut donner sens. Bon, ben, si on veut se faire des chimères, on peut se faire des chimères. Si on veut construire tout un scénario, on peut construire tout un scénario. Mais la sagesse, c'est de laisser le Christ lui-même le donner. Et en fait, Jean-Paul II, il a dans sa lettre sur la souffrance une belle... Il dit que Jésus, en fait, il nous appelle à le suivre d'abord, dans la souffrance, à le suivre, c'est quelqu'un à le suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, à le suivre, et que c'est en le suivant, au fur et à mesure qu'on le suit, que la lumière se fait. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière. Mais la lumière ne vient pas avant de suivre Jésus. Parce que nous, on voudrait comprendre pour suivre Jésus. Mais non, Jésus, il dit non, pas de croix. Moi, je veux la confiance. J'attends de toi cet acte de foi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce aussi à comprendre par lui-même, qu'il renonce à maîtriser les choses, avec sa petite raison. Hein, puis qu'ils me suivent, prennent sa croix, et puis ensuite, là, la lumière se fera peu à peu. En fait, la lumière, elle vient au fur et à mesure qu'on avance, de fait, sur le chemin. Et de fait, la lumière se fait parce qu'aussi, nous-mêmes, on avance, et la situation se transforme de l'intérieur, et la lumière vient et accompagne le chemin qu'on fait. Mais c'est pas une lumière comme ça qui serait donnée... d'un vrai engagement intérieur et d'un vrai chemin intérieur que l'on ferait. Donc ça c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La lumière, elle se fait petit à petit au fur et à mesure qu'on accepte d'avancer.
Et dans la lumière, on peut entendre que nous avons une responsabilité dans ce qui se passe. Parce qu'on peut aussi avoir une responsabilité. Ok.
Bon, je pense que vous auriez pu donner des exemples d'hôpital, justement, où la personne souvent est quand même révoltée, elle ne comprend pas pourquoi, elle n'accepte pas sa souffrance. Et c'est au moment où elle l'accepte de suivre Jésus, enfin qu'elle accepte de faire confiance, que le chemin se fait vers de plus en plus de sérénité, de plus en plus de paix. Donc je vois de plus en plus de lumière, non? Vous n'avez pas d'exemple? Moi, il ne me revient pas, mais enfin.
Ça, c'est un exemple, ce que tu dis, et oui, ça est un exemple déjà.
C'est assez clair, mais je pense dans le livre des Lamentations, vous voyez, la fameuse chapitre 3 des livres des Lamentations que Saint Jean de la Croix utilise quand il parle pour décrire la nuit obscure, puisque ça décrit des souffrances d'âme très grandes, et dedans, à un moment, il dit, bon, il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourdes mes chaînes. Et il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. On ne voit pas d'issue. Vraiment, la route barrée. Nos futurs, comme on dit. Et la tentation de la désespérance totale est là. Et en même temps, c'est le moment où le Seigneur prépare les grands tournants de notre vie. Les grands passages qui passent par des grandes nuits. Des routes complètement. C'est là que la résurrection est la plus forte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. C'est le moment où je voyais plus d'issue que. C'est là qu'il y a vraiment des passages souterrains, que hop, on se retrouve, ça, on a passé une étape décisive dans sa vie, on ne sait pas comment, c'est quelque chose qui s'est fait de l'intérieur, tac, lumière qui vient, ça c'est le Seigneur. Eh bien, les routes barrées, il a mis des pierres de taille, il m'a empêché de m'en sortir par moi-même. Et qu'est-ce que recommande le Seigneur? Il dit... Le Seigneur répond pour qu'il se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Oui, alors parce que le Jérémie dit, mon âme, mon existence est finie, mon espérance qui venait du Seigneur. Voilà, et c'est fini. Et mon âme s'effondre en moi. Voilà. Mais voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies. Mais alors il est dit, il est bon aussi d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse, que solitaire et silencieux, il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui, qu'il mette sa bouche dans la poussière. On arrête de vouloir comprendre. Mettre sa bouche dans la poussière. Qu'il attende, solitaire et silencieux. C'est dans Lamentation 3. Lamentation. C'est pas Jérémie, c'est Lamentation. C'est après le livre de Jérémie.
Chapitre 3.
Rejetant tout fardeau et le péché qui nous assiège, courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec constance, avec patience. Fixons nos yeux sur l'initiateur de notre foi, le Christ qui l'amène à la perfection. Voyez la nuit dans laquelle, de non-sens dans laquelle on peut se retrouver. Jésus l'a pleinement assumé sur la croix, quand il a dit en toute vérité, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand l'Épître aux Hébreux parle de Christ comme l'initiateur de notre foi, c'est le chef de cordée. C'est celui qui, dans la nuit, ouvre le chemin d'une confiance aveugle et totale dans le Père. Parce que « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce n'est pas la dernière parole de Jésus sur la croix. La dernière parole, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc, courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée, en fixant les yeux sur Jésus, qui a traversé cette nuit de l'absurdité, et qui nous ouvre la porte d'une confiance aveugle, d'une foi totale, d'une confiance absolue en notre Père du Ciel. Donc le fils prodigue qui se retrouve au fond de la... touche le fond de la misère, et même, il commence à reprendre un peu confiance dans le Père. Le Père, il a des serviteurs, il les nourrit bien, il va me recevoir tout ça. En fait, dans le fond de sa misère, il y a Jésus, quoi, qui est là, en fait. C'est ça que Jésus, c'est ce moment où on touche le fond et on voit plus d'issue parce qu'on est au fond du trou. C'est à ce moment-là que Jésus, il est là et c'est lui qui fait le relèvement. Le retour à la lumière qui ne peut se faire que dans la confiance aveugle, hein, et une confiance aveugle dont Jésus a payé le prix en posant l'acte de confiance le plus grand dans la nuit la plus grande. Tout ça, c'est dit d'une autre manière déjà. Enfin, il y a beaucoup de paroles dans l'Ancien Testament qui me préparent à suivre Jésus, si je puis dire. Tout trouve son accomplissement dans la lumière de Jésus, hein, on comprend parfaitement, mais je repense à l'Ecclésiastique, c'est au chapitre 2. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient. Car l'or est éprouvé par le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu, ta confiance et te viendra en aide, suis droit ton chemin. Espère en lui. Nous, on veut dire plus que suis droit ton chemin, on peut dire suis Jésus. Suis Jésus et espère en lui. Suis Jésus sans comprendre et tu n'as plus que ça comme lumière. Que, voilà, que dans cette épreuve, Jésus t'accompagne avec toute la puissance de son amour sauveur et la puissance de sa résurrection. Voyez un passage dans le livre de la Sagesse qui commente Joseph vendu par ses frères qui tombe dans le puits. Vous savez, il le jette au fond du puits. La situation se met au fond du puits. Le livre de la Sagesse, il est précisé que la Sagesse descendit avec lui. C'est étonnant, hein? Quand les Juifs lisent ça, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? La sagesse qui descend au fond du puits. Voilà. Ben vous rappelez ça, que le Christ qui est la sagesse, qui est la lumière, il descend avec nous au fond du puits pour mettre sa lumière dans les ténèbres, mais il a besoin de notre confiance. Alors, l'épreuve de la souffrance est d'abord une épreuve de la foi. Et c'est la première chose que nous avons à exercer. Bienheureux ceux qui croient sans voir, sans comprendre. Bien. Je voudrais maintenant voir en quel sens on peut dire que cette épreuve est aussi un chemin d'espérance. La souffrance est là comme un signal qui nous rappelle aussi que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs et non pas en possession de notre vraie demeure et de notre vraie patrie. Ici, je voudrais vous citer Marthe Robin, parce que je n'ai jamais lu de parole plus belle que celle de Marthe Robin sur la manière dont la souffrance nous empêche de nous installer dans ce monde. Et repenser aussi au drame du mauvais riche. Le drame du mauvais riche, c'est qu'il oublie que cette vie-là n'est pas la vraie vie, et il s'installe dans cette vie du monde, et c'est l'autosuffisance, et c'est la fermeture finalement totale à Dieu, dans cette autosuffisance. Nous sommes dans le monde, mais non pas du monde, et nous ne vivons pas de la vie du monde, mais nous sommes appelés à vivre de la vie de Dieu dans le monde. Bon, et la souffrance est là pour nous rappeler notre vocation, finalement. Écoutez Marthe Robin. La souffrance atteint et déclenche nos plus intimes ressorts et nous rappelle le but où nous devons tendre, parce qu'elle nous empêche de nous acclimater en ce monde et nous s'y laisse comme en un malaise incurable. Qu'est-ce en effet que s'acclimater sinon trouver son équilibre dans le milieu restreint où l'on vit hors de chez soi? Il sera donc toujours nouveau de dire là où on se trouve, on est mal. Il est bon de le sentir. Le pire serait de ne plus souffrir, comme si l'équilibre était trouvé et le problème déjà résolu. Sans doute dans le calme d'une vie moyenne, la vie paraît souvent s'arranger d'elle-même, mais en face d'une douleur réelle, il y a un point de belle théorie qui me semble vaine ou absurde. Dès qu'on en approche, on éprouve quelque chose de vivant et de souffrant, les systèmes sonnent creux, les pensées restent inefficaces. La souffrance, c'est le nouveau, l'inconnu, le divin, l'infini qui traverse la vie comme un glaive révélateur, nous montrant les désirs du Christ dans chacun de nous. Et le pire serait de ne plus souffrir. Le mauvais riche. Là, lui, acclimaté à ce monde. Le plus grand mal, c'est un cœur qui n'espère plus. Qui n'attend plus rien de Dieu, parce qu'il a perdu totalement le goût de Dieu. Et il se complète dans cette vie égocentriste, autosuffisante, je dirais, que procure, que nous offre le monde, avec toutes ses convoitises et toutes ses fausses richesses et ses fausses joies. Personne qui avait subi un divorce remerciait le Seigneur parce qu'elle avait sorti de son carrosse. Elle avait un carrosse doré et tout allait bien pour elle. Elle était dans sa bulle, elle ne voyait rien. Il a fallu un divorce pour qu'elle ouvre les yeux sur la vie, sur ce qu'était vraiment la vie, sur le vrai sens de la vie. Bon, on n'a pas besoin de divorcer pour ça, mais je connais bien des personnes qui soudain sont dit, le plus souvent c'était à l'hôpital, c'était plutôt les mourants, qui ouvraient soudain les yeux en disant, mais toute ma vie je suis passé à côté de l'essentiel. Si vous l'aviez... Non, mais ça j'en ai eu plusieurs, j'en vois plusieurs, sont vraiment des hommes. Vous voyez, cette sorte de moment de santé, ben, je suis passé à côté de l'essentiel, ça c'est vraiment la question de l'espérance. L'espérance c'est quoi? C'est la vertu qui nous fait désirer la vie divine, la vie éternelle, comme la vraie vie. Mais c'est la vertu qui nous fait sortir du rêve, du songe, dans lequel sont la plupart des hommes, qui prennent cette vie sur terre pour la vraie vie. C'est eux qui rêvent, pas nous. Et donc, elle est là pour nous faire sortir de notre illusion, et qui est en même temps la source d'une autosuffisance, puisque... On se contente d'une petite vie à mesure humaine. Saint Jean de la Croix dit que plus on est pauvre, plus on est apte à espérer. C'est la raison de la béatitude, bienheureux les pauvres. moins on est comblé par les réalités du monde, moins on se laisse, je dirais, satisfaire, entre guillemets, par les réalités du monde, plus on ressent le vide de ces réalités du monde, la vanité de ces fausses richesses, et plus on est apte à désirer la vraie richesse. On ne peut pas à la fois se laisser combler, entre guillemets, par quelque chose qui ne comble pas, et en même temps dire « mon âme est une terre aride, mon âme a soif de toi », enfin non. Il faut que la terre aride, qui est notre âme, elle se reconnaisse comme terre aride. Là-dessus, les gens qui veulent toujours toute leur vie jouer sur les deux tableaux, ils se trompent. La logique du carême, qui est celle du jeûne, est là pour, on le sait bien, nous désencombrer et nous permettre de réveiller des désirs saints, des désirs purs, des désirs forts de la vraie vie. Ce n'est pas possible si on passe son temps à grignoter des petites miettes à droite et à gauche. Bon, et comme on n'a pas le courage de se priver nous-mêmes de ces petites miettes, eh bien le Seigneur, quelquefois, est obligé de frapper fort pour nous rappeler qu'on est en train de s'endormir, qu'on est dans une petite bulle de fausse vie, et qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on se remette en route vers la vraie vie. Le problème, c'est que, genre, parfois, les malades, ils ont la lumière, je suis passé à côté de l'essentiel toute ma vie, je l'ai vécu à poursuivre des choses qui n'en valaient pas la peine, maintenant je me rends compte que, hop, s'ils réchappent dans leur camp d'épreuve, s'ils récupèrent, hop, ils reprennent leur travail, on les retrouve 6 mois après, hop, métro, boulot, dodo, hein. On essaie de leur reparler du ciel, non, de la vie éternelle, non, tout ça, c'est terminé, hop, on est reparti à s'acclimater au monde. Là, on est comme ça. Hein. Bon.
Non, mais je pense qu'il faut mettre des bémols par rapport à dire plus on est pauvre, parce que si les riches peuvent être
plus fort, plus fort.
Non, je dis au père quelque chose.
Plus on est pauvre de cœur.
Oui, c'est ça, il faut préciser. Parce que...
Mais la pauvreté de cœur, si on ne connaît pas des pauvretés réelles, je ne sais pas si...
La richesse n'empêche pas la pauvreté de cœur.
La richesse n'empêche pas la pauvreté de cœur, mais heureusement qu'il y a des failles dans notre richesse pour nous permettre de vivre la richesse avec pauvreté de cœur, parce que sinon, il y a des vies qui sont malheureusement sans beaucoup de failles. Moi, ce qui me scandalise, c'est plutôt la situation du mauvais riche. Pourquoi Dieu ne l'éprouve pas pour le faire sortir de son songe, de sa somnolence spirituelle? Pourquoi il n'a pas une grosse tuile? Ça qui est plus questionnant, c'est pas la souffrance de Lazare, moi, qui me choque, c'est l'état dans lequel se retrouve ce mauvais riche. Alors, il y a certains théologiens qui ont une réponse terrible, hein. Je vous la laisse quand même parce que ça refroidit. Des gens sérieux comme saint Thomas d'Aquin seraient allés jusqu'à dire que quand la personne est trop loin de Dieu, Dieu la laisse jouir sur terre parce que c'est l'enfer qui l'attend, donc elle lui laisse un peu de bonheur.
Ouais.
Et j'ai lu un truc comme ça du Padre Pio. Ah, ça c'est dur à entendre, mais les gens qui sont là à envier les riches qui sont dans cet état d'aveuglement et d'autosuffisance, tu me demandes à quoi ils pensent. C'est pas du tout enviable, ça. C'est le mal absolu. C'est une tristesse à mourir.
Je voulais simplement dire qu'il y a aussi des pauvretés qui empêchent l'ouverture du cœur, parce que tu as tellement à chercher à manger, à te loger le soir, que tu penses à rien d'autre, et qu'il ne faut pas non plus faire l'éloge d'une pauvreté trop grande. Et que tant qu'on n'a pas... Enfin, moi j'ai connu ça, hein, vraiment, de de ne pas avoir de quoi manger. Et à ce moment-là, tu penses que ça, quoi. Tu dis, comment je vais faire aujourd'hui, demain, après-demain. Et à ce moment-là, la pauvreté du cœur, tu ne penses pas parce que tu cherches d'abord ça. Aussi. Voilà. Sortons du tout ou rien.
Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça, dans l'écriture, on voit des paroles du genre, Seigneur, donne-moi ni la richesse, ni la misère. Mais pauvreté et misère, c'est une distinction. Et justement, Jésus, il a vécu sur terre dans une pauvreté, mais pas dans la misère. Et je pense que... Maintenant, moi, j'ai été vraiment extrêmement bouleversé par certains SDF, plutôt des vrais clochards que j'ai vus à l'Hôtel Dieu, on a le temps de leur parler. Et je me souviendrai toujours d'une femme, d'une vraie clocharde, dans la misère la plus grande, me dire, moi, mon trésor, c'est mon cœur, qui avait une telle foi, une telle... Bon, mais c'est pas donné à tout le monde de vivre dans la misère, dans ce contact avec le vrai trésor. Hein. Mais c'est vrai que il faut demander au Seigneur une vie simple et sobre, voilà. Vécu dans un esprit de pauvreté et qui nous épargne la tentation de la grande richesse et du grand confort, en tout cas, qui nous apprenne, si on l'a, cette richesse, à pas y mettre notre cœur et à savoir profiter des épreuves quand même de la vie pour revenir à plus de sagesse et de détachement. C'est difficile d'être vraiment riche. Des gens très riches, je trouve, ils vivent dans un autre monde.
Pas toujours. Pas toujours.
Non, mais souvent. Souvent. Des gens très riches, je parle des gens.
Moi, j'en connais des gens très riches, d'un cœur d'or.
Non, mais je pense à la Jade Society.
Non, mais je généralise beaucoup.
Oui.
Oui, je généralise.
Tu diabolises beaucoup.
Je diabolise pas, mais je dis que dans l'écriture, la grande richesse n'est pas présentée comme quelque chose d'enviable. Plutôt comme une tentation et quelque chose qu'il faut pas, en tout cas ce serait une folie que de courir après.
T'inquiète pas, on n'en est pas là. Tout va bien, continuons. Tu as des choses très importantes à nous dire.
Allez. Espérer ce que nous ne voyons pas, dit Saint Paul, c'est l'attendre avec patience. Dans l'espérance, il y a la notion d'attente. Donc, dans la foi, c'est la confiance aveugle. Dans l'espérance que le Seigneur attend de nous comme vertu à pratiquer, c'est la patience. Qui fait que on laisse le désir grandir dans cette attente patiente. Il y a quelque chose qui se creuse. Marqué, ça rejoint le livre des Lamentations, hein, qu'il met sa bouche dans la poussière, qu'il attende, solitaire et silencieux. Espérer, c'est attendre avec patience ce qu'on ne voit pas. On espère et on ne sait pas vraiment ce qu'on espère. On attend et on ne voit pas ce qu'on attend. Mais il y a un petit quelque chose qui naît en nous qui nous fait dire qu'il y a une autre rive qui nous attend. Et on pressent, mais on ne comprend pas non plus qu'est-ce que sera cette autre vie qui nous attend. C'est seulement après qu'on voit que de fait, le Seigneur est en train de préparer une autre vie. Un nouvel état, une nouvelle phase dans notre vie qui n'aurait pas été possible s'il ne nous avait pas arraché à cette vie ancienne. Bon, la difficulté dans l'espérance, c'est qu'on sait ce qu'on lâche et on ne voit pas ce qui nous attend. Et qu'on a du mal à désirer quelque chose qu'on ne voit pas clairement. Mais c'est là où le fait d'attendre avec patience... Avec patience, sans voir. Mais on voit ici que l'espérance est liée à la foi. Hein. C'est la foi qui donne la force d'attendre. avec patience, en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Toujours dans l'Écriture, l'espérance est aussi liée à la parole de Dieu. Pensez à Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, hein, dans l'incertitude que Dieu ne peut pas nous tromper, et on s'appuie sur la parole. Il connaît une personne qui s'était retrouvée à la rue, qui avait tout perdu, puis en plus il était malade, et qui était poursuivi par une secte, et qui avait vécu, mais elle s'appuyait sur cette certitude que Dieu disait, je me répétais tout le temps, mais Dieu ne peut pas m'abandonner, tu ne peux pas m'abandonner, Dieu ne peut pas m'abandonner. Et finalement, de fait, Dieu ne l'a pas abandonnée, mais elle est passée par des ravins où moi, personnellement, je me disais, s'il y avait vécu ça, j'aurais complètement craqué, j'aurais... Tout ça, mais elle a traversé ça. Je pense que c'est son humilité, et puis le fait qu'elle cherchait pas à imaginer les choses, mais elle s'appuyait uniquement sur cette parole, Dieu ne peut pas m'abandonner, c'est pas possible, et puis elle a traversé. Là, c'est l'espérance. C'est pas nécessairement de ressentir des grands désirs du ciel, vous voyez, mais c'est l'attente de quelque chose, d'une nouvelle vie, de quelque chose qui va naître, qui va venir comme le fruit de l'épreuve. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, ne sachant qu'espérer, désorientés, sachant qu'espérer, mais non désespérés. Ça dit bien ça. On ne sait pas ce qu'on espère, mais on n'est pas désespéré. Il y a un petit quelque chose qui pointe, un désir d'un je ne sais pas quoi, mais il y a une vertu qui est là, qui est en train de grandir, qui s'appelle l'espérance. Les personnes qui sont dans des épreuves relationnelles, je pense notamment aux personnes qui connaissent, qui traversent le divorce, puisque ici même, dans ce presbytère, j'accompagne les parents seuls de la Trinité, donc depuis 6 ou 7 ans, ces personnes, je trouve, sont appelées particulièrement à vivre un chemin d'espérance, parce que le Seigneur les appelle à passer d'une manière humaine d'aimer à une autre forme d'amour dont en réalité elles n'ont pas idée. Ça s'appelle la charité divine. Une fois qu'on était la charité divine, en réalité, pour la plupart des gens, ça reste quelque chose d'assez abstrait et lointain de la vie réelle. La charité divine, c'est vraiment autre chose que l'amour humain. Je veux dire que l'amour dont notre cœur humain est capable. Bon. Parce que la plupart des gens, du moment qu'ils aiment avec une intention chrétienne, en voulant faire la volonté de Dieu, une personne me dit, moi la volonté de Dieu c'est que j'aime mon conjoint, donc j'aime mon conjoint, c'est la volonté de Dieu, donc c'est ça la charité. Ben non, c'est pas si simple que ça. Charité, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, par-dessus tout pour lui-même, de tout son cœur, et d'aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Et ça, en réalité, la plupart des gens aiment l'autre, en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Ils voient pas, ou ils comprennent intellectuellement, mais ils voient pas vraiment en quoi ça consiste, parce que c'est un amour à côté duquel on peut passer toute sa vie, malheureusement. Non. Et ce qui m'a été donné d'observer ici, dans ce lieu-là, c'est que y a vraiment un passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle qui s'opère moyennant des souffrances affectives très, très grandes. C'est-à-dire, je repense à cette femme qui, catholique, pratiquante, engagée sur sa paroisse, vraiment bien j'étais bien installé dans sa foi, qui son mari l'a quitté du jour au lendemain. Elle avait tellement rien vu qu'elle a mis un an à sortir du déni, parce que c'était pas pensable pour elle. Et quand elle a été obligée de reconnaître les choses, ça a été tout de suite la tentation du suicide, mais une tentation terrible, terrible. Et heureusement qu'elle avait, je sais pas, je crois, 4 enfants qui ont senti la chose et qui l'ont empêchée de se suicider. Eh bien, un vendredi saint, 10 ans après, elle avait tout un chemin, elle était dans un groupe de prière, elle a commencé à goûter un peu Dieu, à trouver que ben, il y avait à s'ouvrir à d'autres choses, et puis à se laisser accompagner par des frères, et tout ça. Mais le point décisif où elle est vraiment basculée d'une rive à une autre, c'est quand un vendredi saint, elle a pris subitement, elle a une lumière, elle a pris subitement conscience que, en fait, elle croyait avoir aimé son époux, mais qu'en fait, c'était pas ça l'amour véritable, qu'elle l'avait idolâtré. Et elle osait à peine prononcer ce mot, tellement pour elle, c'était terrible cette lumière sur sa vie conjugale. Mais elle m'a dit, je suis obligée de parler comme ça, parce qu'elle a donné son témoignage ici, d'ailleurs. Dans cette salle, elle donnait son témoignage et je me dis, est-ce que ça va passer ou pas? En fait, ça a passé parce que ça rejoint bien d'autres femmes dans ce groupe qui, en fait, suivaient le même chemin de prendre conscience qu'elle avait idolâtré son époux, que c'était pas ça l'amour véritable, et elle a commencé à comprendre ce que pouvait être de l'aimer vraiment en Dieu, pour Dieu. 10 ans de chemin. Hein. Bon, ça, c'est l'espérance. Il faut passer d'une vie d'amour humaine à une autre vie d'amour. Donc, en fait, elle n'avait pas été, mais elle a suivi un chemin d'espérance, c'est-à-dire elle a crié vers Dieu, puis il y a un moment où elle a vraiment basculé. Et elle a commencé à aimer, à rentrer vraiment dans une autre vie de charité. En fait, elle n'avait pas l'idée, elle avait l'idée intellectuelle, mais elle n'avait pas l'expérience. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous voyez, un même événement, parce que maintenant, elle rend grâce pour cette épreuve. La même épreuve, on suicide, on rend grâce. Vous voyez, c'est ça qui fait la force de la... De l'évangile, de nous donner, de vivre les choses, de vraiment donner une lumière qui fait que on traverse des choses qu'humainement, par des gens qu'on voit qui sont à la rue, c'est suite à un problème d'échec de couple. Hein. Les clochards types, que ceux que j'ai rencontrés à l'hôpital, il y avait toujours une femme derrière. Hein. Enfin, pas que c'est des femmes, mais il y avait une peine de cœur. Hein. N'avait pas pu assumer. Et quand on voit ces chemins qui sont faits par des personnes, on se dit, mais elle est là la force de l'évangile. Alors je dirais simplement, par rapport à ça, de passer d'une vie d'amour qui a été pendant longtemps faussement comblante, à une nouvelle manière d'aimer, ben ça ne peut pas se faire sans une attente patiente qui peut prendre la forme d'un certain vide au niveau affectif, c'est-à-dire le cœur il est vidé des sentiments humains pour être rempli de sentiments nouveaux, mais il y a un moment où on se retrouve dans le vide. On ne peut pas revêtir une vie nouvelle sans être dépouillé de la vie ancienne. On ne peut pas sortir d'une manière trop humaine d'aimer sans, à un moment, être dépouillé de toute manière d'aimer. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est le vide dans l'espérance. On attend ce qu'on ne voit pas, on désire quelque chose qu'on ne possède pas, et on est dépouillé de ce qu'on possédait. Donc, si on regarde dans l'évangile, à chaque fois qu'on peut passer d'une rive à une autre, il y a une tempête. La nature a horreur du vide. Alors, maintenant, en quoi la souffrance, la douleur approfondit l'amour ? On a vu la foi, l'espérance. Et en quoi on peut dire que c'est une expression de Jean-Paul II au moment de la canonisation de Lichtenstein, si mes souvenirs sont bons. Oui. Le véritable message de la douleur est une leçon d'amour. L'amour rend la douleur féconde. Et la douleur approfondit l'amour. En quoi la croix a été pour le Christ l'occasion de nous aimer, le lieu de l'amour le plus grand, de nous aimer, de l'amour le plus grand ? Pourquoi la souffrance devient matière ? D'un amour plus grand en quoi ? On a vu qu'elle était bien la matière d'un exercice de la foi, par la non-perception du sens, inhérent à toute vraie souffrance, toute vraie épreuve. On a vu qu'elle était la matière de l'espérance, de faire quitter ce qui nous semblait être la vie pour nous ouvrir à la vraie vie. C'est une question fondamentale, hein. Si on savait profiter de toutes nos épreuves pour aimer davantage et aimer mieux, c'est quand même bien qu'on puisse vraiment comprendre cette alchimie divine, si je puis dire, qui fait que la douleur devient la matière d'un amour plus grand. Moi, je vous dis ce qui me vient là, en fonction aussi de témoignages que j'ai pu recevoir, mais enfin, c'est du chemin que le Seigneur a pu me faire faire à certains moments, c'est-à-dire cette parole de Jésus, hein, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. En fait, moi, ce qui m'éclaire, c'est qu'en grec, c'est déposer son âme. Et si vous dites qu'il n'y a pas de plus grand amour que de déposer son âme pour ceux qu'on aime, à ce moment-là, on peut repenser que la dernière parole de Jésus à la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Bon. Alors, de se dire que la charité, l'amour, c'est d'abord par rapport à Dieu, l'aimer de tout son cœur, et l'aimer de tout son cœur, c'est l'aimer dans un abandon total. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est ce que j'avais que sur le sommet de sa passion. C'est ça qui ressort. Tout fils qu'il a pris, tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances et puis toutes ses preuves l'obéissance. Il a trouvé dans la souffrance la matière d'une obéissance, d'un abandon, d'une remise de lui-même totale. Remettre son âme à Dieu dans l'épreuve, c'est ça d'abord la charité. Le plus grand amour en réalité, c'est l'abandon filial à notre Père du Ciel. Alors, il n'y a pas de plus grand amour que de déposer son âme pour ceux qu'on aime. La souffrance de la matière d'un abandon. Et cet abandon, Jésus nous apprend dans sa passion à le vivre pour ceux qu'on aime. Pourquoi ? Parce que cet acte d'obéissance dans la souffrance, qui donne à cette obéissance sa perfection, à notre tendance à la perfection. C'est facile de dire qu'on s'abandonne à Dieu quand tout va bien. Mais hein, oui, dans l'épreuve, hein, alors que Dieu semble nous abandonner, eh bien on s'abandonne à lui. Comme a dit Jean-Paul II, abandonné par le Père, le Christ, le Fils s'abandonne à lui. Donc il est allé jusqu'au bout de l'obéissance, dans la nuit, dans l'obscurité, de sa confiance filiale, et de penser que ça, c'est ça qui est rédempteur. C'est-à-dire c'est cette obéissance qui anéantit le mal du péché comme désobéissance. Le péché est essentiellement une désobéissance, une non-foi, une non-confiance, une non-obéissance. Et Jésus sur la croix, il vainc radicalement le mal du péché par son obéissance. Et il le vit consciemment pour nous, pour nous sortir de notre désobéissance. Donc il est l'agneau de Dieu, immolé, qui porte le poids, le péché, les conséquences de nos péchés, qui souffre à cause de nos péchés, et qui, dans cette souffrance à cause de nos péchés, trouve la matière d'une obéissance qui anéantit le péché. Bien nous-mêmes, nous pouvons souffrir à cause de nos péchés, à cause du péché des autres, et trouver dans cette souffrance liée à notre péché ou au péché des autres, peu importe, la matière d'un abandon qui nous fait communier à l'abandon du Christ et qui fait de nous des participants à son œuvre de rédemption. Quand on arrive à vivre ça consciemment, eh bien, ça donne une mort comme celle de Jean-Paul II. Avec, vous voyez, l'explosion de grâce qui a été liée à cette mort. La bonne odeur de l'amour pur. Quelque chose qui s'est passé dans l'Église et dans le monde à ce moment-là. Qui était bien plus fort que tous ces messages. C'était la force de l'offrande, de l'abandon de lui-même au Père, vécu consciemment pour l'Église. Pour le bien de l'Église, pour le renouveau de l'Église. Fruit d'un chemin de foi, d'espérance. L'espérance ne déçoit pas, parce que la charité a été répandue dans nos cœurs, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. On voit ce chemin dans la souffrance, voyez, la foi d'abord, l'espérance qui nous ouvre à une vie nouvelle, mais en fait cette vie nouvelle, c'est l'abandon, c'est la charité divine. Dans lequel Jésus veut nous introduire pour qu'on puisse porter un fruit mûr pour le salut, la vie du monde. Amen. Florence, elle dit Amen. Allez. Donc, s'il y a une question, on peut répondre. Sinon, voyez, quand on dit offrir sa souffrance, si on ne fait pas ce chemin de foi, d'espérance et d'abandon, ben on peut poser un acte dans lequel on dit Seigneur, je t'offre cette souffrance, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais moi, ce que je sais, c'est que dans ma vie, j'ai quelquefois offert ma souffrance sans avoir pris le temps de l'accepter, sans avoir fait le chemin d'abandon, le chemin de la foi, de la confiance, et tout ça. Mais simplement, je savais en bon prêtre qu'il fallait offrir sa souffrance. Alors, Seigneur, je te l'offre, mais en réalité, la colère est toujours là, de la révolte. Et donc, oui, offrir sa souffrance, mais ce qui rend la souffrance féconde, et qui lui donne une valeur d'offrande, c'est la profondeur de notre abandon. Il y a des degrés. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas faire un petit pas dès le début en disant « Seigneur, je l'accepte et puis je te l'offre ». Mais vous voyez, c'est tout un chemin aussi qui doit se faire avec le temps, qui fait qu'on arrive vraiment à un abandon du fond du cœur et à une acceptation profonde, et qu'on peut vivre cette souffrance de fait en communion intime avec le Christ à ce moment-là, en fait, le fruit mûr, c'est quand même, il y a une certaine joie que j'ai vue sur les visages de certains malades. Je me souviens notamment d'une sœur de Mère Teresa indienne, que le médecin était étonné par sa patience, était en salle de réanimation, et elle a une joie proprement surnaturelle sur son visage, dans un état d'abandon, et elle était complètement détendue, on sentait qu'elle était, elle lâchait prise complètement, et le médecin était vraiment étonné de sa patience et de la manière dont elle réagissait, et il y avait sur son visage cette joie qui vient d'ailleurs. Et puis aussi, Cécile me rappelle Frédéric, une sœur de Bethléem, qui, sa voisine s'était convertie parce qu'à un moment, sa voisine, elles étaient toutes les deux atteintes d'un cancer. Enfin, je ne sais pas si sa voisine était une maladie aussi grave qu'elle. Mais elle était atteinte d'un cancer, et à un moment, elle a dit, comme la vie est belle, avec une telle force, que cette parole qui a complètement renversé l'eau. Elle m'a fait dire, mais elle vit quelque chose que je ne vis pas, cette sœur. Mais elle a suivi, elle aussi.
Elle était lumineuse.
Oui, elle était lumineuse dans...
une souffrance atroce.
Elle a connu...
Elle avait une souffrance terrible. Elle souffrait physiquement. Elle n'avait plus que la peau et les os. Mais elle était lumineuse. Elle avait un regard... elle était tout en Dieu.
Le Seigneur l'avait préparée parce qu'avant qu'elle, brutalement, elle se retrouve à l'hôpital, elle avait relu et elle était profondément touchée par le message de la Vierge à Fatima, demandant d'offrir les prières, les sacrifices pour la conversion des pécheurs. Tout ça. Elle s'est vraiment pénétrée. C'est la première chose dont elle a parlé quand je l'ai rencontrée.
Elle avait tellement souffert que quand elle est décédée, elle avait 41 ans, je crois 40 ans, quand elle est décédée, on aurait dit une personne de 95 ans, elle était défigurée, tellement elle avait souffert. Je l'ai revue sur son lit, dans son cercueil, et c'était étonnant de voir, elle avait souffert.
Et pour la joie.
Voilà, mes amis, on peut peut-être s'arrêter sur ce beau témoignage, et pour ce qu'on dise ensemble à notre Père, pour remettre notre âme entre les mains de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.